Bernard de Chartres disait que les savants d'aujourd'hui s'appuyant sur les grands penseurs du passé sont nanos gigantium mumeris incidentes, des nains sur des épaules de géants. Il n'empêche que, sur les épaules d'un géant, on voit plus loin que le géant. C'est vrai, répondit Andreas avec un sourire. Toujours est-il que dans les dernières années de sa vie, Démocrite, disais-je, perdit la vue, mais il affirma que c'était pour lui une chance, car sa cécité aurait facilité sa réflexion. Et en effet, l'homme dépassa son empirisme pour ne plus raisonner que par sa grande capacité d'abstraction. Or, vois-tu, Démocrite affirmait, et c'est pour cette raison que je t'entretiens de lui, que le monde physique est composé de deux uniques principes, les atomes et le vide. Les atomes? Oui. Les atomes sont, selon lui, des corpuscules solides et indivisibles, si petits qu'ils échappent à nos sens, si durs qu'ils ne peuvent être altérés. Et ils sont à l'origine de toutes choses et de tous les éléments. Ils se déplacent éternellement dans le vide. Quand ils s'associent, ils créent la matière. Quand ils se séparent, ils la détruisent. En somme, l'être n'est pas unique, mais composé d'une grande quantité de ces corpuscules. Et c'est cela que vous voulez observer avec ces lentilles? En quelque sorte, Robin. Je veux observer l'infiniment petit. Ce faisant, je crois pouvoir du même coup mettre un terme définitif à la théorie des humeurs, à laquelle les médecins continuent de se vouer aveuglément alors qu'elle me semble de la plus grande ineptie. Ce qui en soi n'est guère étonnant quand l'on sait combien les praticiens modernes, qui n'ont plus rien inventé depuis les docteurs grecs et arabes, sont prompts à s'engager derrière toute doctrine, pour fumeuse qu'elle soit, tant que celle-ci leur permet de donner une explication aussi simple que possible, fût-elle inexacte, à ce qu'ils ne comprennent pas. Tu connais la théorie des humeurs, mon garçon? Un peu. C'est un héritage de la médecine salernitaine. Et à travers elle, des théories hippocrato-galéniques. Pour ces imbéciles, la maladie n'est qu'un déséquilibre entre les quatre humeurs de l'homme, foutaise. La science médicale n'a guère progressé depuis bien des siècles, l'Occident s'étant perdu dans les facéties de l'alchimie, plus disposé à rechercher l'or, la pierre philosophale et l'élixir universel, qu'à perfectionner l'art de soigner nos véritables souffrances. Or, je veux démontrer, moi, l'existence d'un organisme étranger minuscule, responsable de la plupart des maux qui touchent les hommes. C'est donc bien à des fins médicales que vous faites tout ceci. Pas seulement, Robin. Le domaine médical n'est qu'une infime partie de ce que permettront les découvertes que j'espère initier. Mais alors, quel est votre vrai dessein? Je veux trouver la clé du monde physique, mon enfant. Chapitre 26. Le lecteur se souvient sans doute de ces deux personnages singuliers, tous deux noirs vêtus, qui au début de notre récit avaient obtenu du grand maître Juan Hernandez Manao, à Pamplune, le nom d'Andreas Saint-Loup. Et l'on sait de quelle sournoise manière. Qu'il se rassure, nous ne les avons pas oubliés, nous non plus. Et nous les retrouvons maintenant à la frontière entre le royaume de Navarre et le duché de Guyenne, parcourant la terre, remontant tout droit vers le nord sur deux grands et fiers chevaux. Les deux purs sangs, l'un blanc et l'autre brun, avançaient tout le jour, chaque jour, sans jamais montrer la moindre fatigue, telles les plus robustes montures de croisée. Chaque soir, les deux hommes qui n'échangeaient aucune parole s'arrêtaient dans une nouvelle ville, un nouveau village, soupaient dans une auberge où l'on osait leur poser la moindre question, et y dormaient sans avoir parlé davantage. Les gens les observaient avec une crainte non dissimulée, car leur taille, leur mutisme, leur blondeur d'ange diabolique, leur accoutrement et l'épée à leur ceinture impressionnaient grandement. Et quand par un malheureux hasard on croisait leurs regards, on se ravisait aussitôt et détournait rapidement les yeux. On devinait deux soldats, deux guerriers en mission que rien d'autre n'animait que leur dévouement à une cause mystérieuse et qui de toute évidence ne s'arrêteraient pas avant d'avoir terminé leur obscure besogne. Eussent-ils été quatre, que d'aucuns à n'en pas douter les auraient dit cavaliers de l'Apocalypse, chevauchant vers la fin du monde à l'ouverture des quatre premiers des sept sceaux pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Mais ils n'étaient que deux, et pourtant,